De le faire, deux petits mots peut-être pour faire le lien entre la table ronde précédente et l'exercice auquel vous êtes maintenant convié. Il me semble qu'on peut retirer deux conclusions de la table ronde précédente. La première, c'est que nous sommes en train de nous livrer à un véritable exercice de démystification de la démocratie. La démocratie, ce n'est pas seulement un sujet pour les philosophes politiques, c'est aussi un sujet pour tous ceux qui regardent les horreurs et les merveilles de la société. La démocratie est pleine de groupes de pression, de syndicats, etc. Et ma deuxième conclusion, c'est qu'il aurait peut-être fallu aller un peu plus loin et précisément faire la distinction entre les horreurs et les merveilles. Je pense, par exemple, qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans syndicat. Peut-être peut-on imaginer une démocratie sans lobby, mais alors il faut faire la différence entre ceux qui agissent dans la transparence et ceux qui agissent dans le mystère. Voilà les deux choses que je voulais vous dire. Et en tout cas, parmi ceux qui agissent dans la transparence, il y a la presse, il y a les médias, et c'est tout naturellement la transition entre l'exercice précédent et celui-ci. Et encore un mot pour vous présenter les deux personnalités qui vont s'exprimer. À ma gauche, alors je suis désolé parce que tout le monde connaît Luc Ferry, mais monsieur le ministre, hier, un de vos prédécesseurs, Jacques Lang, a eu droit à être présenté. Il est aussi connu que vous. Donc il faut bien que je vous présente. La différence avec Jacques Lang, c'est que vous avez réalisé ce que Platon souhaitait, à savoir que les philosophes fussent rois. Vous avez été le roi de l'éducation. Voilà un philosophe qui fut ministre de l'éducation. Et il est aujourd'hui président de quantité de cercles de pensée. Sa bibliographie ne comporte pas moins de 32 lignes, mais le livre dont il est le plus fier, c'est « Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations ». Et à ma droite, Yves Michaud, vous ne le connaissez pas, moi non plus. Lui aussi est philosophe, il est le concepteur de l'Université de tous les savoirs, qui a organisé avec le domaine de Versailles, Jean-Jacques Ayagon, cette soirée qui nous réunit tous. Et je leur cède la parole en commençant par Luc Ferry. Merci.
Un grand merci à vous. Je voudrais saluer mon ami Jean-Jacques Ayagon, que je suis toujours très heureux de retrouver. Saluer aussi Catherine Lolès, qui a eu la gentillesse de travailler avec moi dans une vie antérieure. Et vous dire combien je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Je commencerai par une petite blague, pas méchante, rassurez-vous. J'entendais ce matin le mot du général de Gaulle. C'est pour nous consoler de ne pas avoir un journaliste avec nous. Il disait « Recevoir un grand nombre de journalistes est un plaisir. Recevoir un petit nombre de journalistes est un ennui. Recevoir un seul journaliste est un supplice. » Et je trouve que c'est pas mal finalement, c'est assez consolant, c'est assez bien vu. Mais cela dit, c'était une plaisanterie. J'aime beaucoup Laurent Geoffrin et je regrette qu'il ne soit pas là parce que j'aurais parlé de son journal aussi avec plaisir. Je vais vous en dire d'ailleurs quelques mots. Je commencerai par trois petites remarques. Trois erreurs qu'on commet généralement sur la presse, à mes yeux, je ne sais pas ce que Yves en pensera, soumet la chose, trois erreurs très communes et qui sont vraiment des erreurs. La première, c'est qu'on croit souvent, dans l'opinion publique, que la presse est en main, qu'elle est contrôlée. On s'imagine que le président de la République contrôle la presse. Honnêtement, si c'était le cas, il n'en prendrait pas plein la musette tous les matins comme c'est le cas aujourd'hui. Quand vous lisez Marianne, quand vous lisez Libération, quand vous lisez Le Nouvel Observateur, quand vous écoutez France Inter, on n'a pas le sentiment que la presse soit intégralement contrôlée par l'Élysée. C'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors c'est une manipulation assez tordue. Et donc je ne crois pas que le pouvoir contrôle la presse aujourd'hui. Je pense que la deuxième erreur, c'est celle des politiques, qu'ils s'imaginent qu'ils pourraient la contrôler et qui essaient de le faire. Et ça, ils ne renoncent jamais. On voit bien, on essaye toujours de nommer les présidents de chaîne, d'intervenir dans les opérations par lesquelles les journaux sont plus ou moins repris par telle ou telle entreprise ou tel directeur. Je crois que c'est une immense illusion aujourd'hui. Les politiques peuvent toujours faire ce qu'ils veulent. Ça ne changera rien au fait que la presse est globalement indépendante aujourd'hui du pouvoir politique. Ça, c'est la deuxième erreur. Et puis la troisième, c'est de s'imaginer que pour autant, parce que la presse est indépendante du pouvoir politique, elle est libre. Elle n'est pas libre. Elle a un tyran terrible. Elle a un maître extraordinairement puissant qui n'est pas le politique. Encore une fois, ça se voit tous les jours. Si le politique la contrôlait, ça se saurait. Elle a un tyran terrible qui s'appelle l'audimat et qui est le tyran économique. Les entreprises de presse sont des entreprises comme les autres. Et le tyran est beaucoup plus puissant, ce tyran économique, que le tyran politique virtuel qu'on imagine et qui en vérité n'existe pas. La logique de l'audimat est extraordinairement puissante et c'est d'elle que je voudrais vous parler. Cette logique de l'audimat, je l'entends au sens général, pas simplement pour la télévision, pour la radio, mais pour la presse écrite aussi bien. La logique de la vente, tout simplement, les entreprises de presse sont des entreprises privées comme les autres. Quand vous regardez, simplement pour donner une image, mais je vais la commenter après, les unes de nos hebdomadaires pendant une campagne électorale, vous pouvez reprendre pendant la campagne de 2007, ce sont toutes les mêmes unes. Alors évidemment, quand c'est dans un journal de droite, on dira du bien du type de droite. Quand c'est dans un journal de gauche, on en dira du mal. Mais ce sont les mêmes unes. C'est tout d'un coup, toutes les unes de l'Express, de l'Obs, du Point sur la tête de Bayrou, sur la tête de Ségolène, sur la tête de Nicolas. C'est comme les bancs de poissons dans les films de Cousteau. C'est tout d'un côté, tout de l'autre, mais il n'y a pas de chef d'orchestre. Ou plus exactement, le seul chef d'orchestre puissant, c'est l'audimat. Et je voudrais vous montrer pourquoi cette logique de l'audimat est en vérité au cœur du cœur du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire au cœur du cœur de la mondialisation. Et donc je vais m'écarter de la presse un moment, mais c'est pour mieux y revenir et pour éclairer ce que je viens de vous dire, pour que ce ne soit pas simplement des affirmations gratuites, mais que ce soit le plus argumenté possible. Le cœur de la presse, c'est la logique même de la mondialisation, c'est-à-dire la logique de l'audimat. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Si vous aviez invité mon ami Daniel Cohen, un économiste, il vous dirait la mondialisation, en gros, c'est l'entrée de l'Inde et de la Chine dans le commerce international. C'est l'entrée de l'Inde et de la Chine dans le circuit de la production et de la consommation à l'occidental. Évidemment, c'est juste, mais la mondialisation, c'est mille fois plus puissant et plus profond que cela. Et je voudrais vous dire ce que c'est pour que vous compreniez vraiment ce qu'est, à mes yeux, la logique de la presse aujourd'hui et pourquoi ce tyran qu'est l'audimat est si puissant. La mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. En tout cas, c'est comme ça que je la définirais. Il y a bien sûr d'autres définitions, mais c'est celle-là que je privilégierais. C'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. Et je voudrais vous faire partager, dans le petit quart d'heure qui vient, l'idée que je crois la plus puissante, la plus profonde et la plus éclairante que j'ai rencontrée dans ma vie pour comprendre le XXe siècle dont nous sortons et le XXIe dans lequel nous entrons. Elle est très simple, mais elle est extraordinairement profonde. Comme on dit en musique, elle a des harmoniques, c'est-à-dire des ramifications quasiment sans fin. On pourrait y consacrer un séminaire d'une année, je vais faire ça plutôt en un quart d'heure. Je vais faire, comme on dit chez moi, tenir la dinde dans le marron, mais vous verrez qu'il y a des ramifications qui sont vraiment prodigieuses et que ça permet de comprendre cette logique de la presse de manière tout à fait différente de ce qu'on entend habituellement. Je disais, la mondialisation, c'est deux grands moments dans l'histoire de l'Europe. Le premier moment, c'est évidemment la révolution scientifique des 17e, 18e siècles. Pensez au procès de Galilée, pensez à cette magnifique entreprise des encyclopédistes, de nos encyclopédistes français, les Diderot, d'Alembert, Voltaire, ce qu'on appelle les Lumières. Qu'est-ce qui caractérise cette grande période de la révolution scientifique? Eh bien, c'est l'émergence, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, d'un discours, le discours de la science moderne, le principe d'inertie qui apparaît chez Descartes, le principe de la gravitation universelle de Newton. Le premier chimiste en Europe, c'est Lavoisier. Eh bien, c'est l'émergence d'un discours, le discours de la science moderne, qui est le premier discours dans l'histoire de l'humanité à être véritablement mondial, à être véritablement universel. Quand vous y réfléchissez, c'est très frappant. Tous les discours antérieurs à la science moderne, que ce soit les mythologies, les littératures, les philosophies, les religions même, sont des discours locaux ou régionaux, qui ne valent que sur un continent ou dans une civilisation. Seul le discours de la science va être porteur d'un message universel, d'un message qui, via les écoles, va véritablement traverser toutes les classes sociales et toutes les frontières. Le discours de la science, il va valoir pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les roturiers comme pour les aristocrates, en quoi il est révolutionnaire à l'époque. Mais aussi, il vaudra pour les Chinois comme pour les Indiens, les Anglais ou les Allemands, en quoi il est trans-classe sociale et trans-frontière. C'est le premier discours de la mondialisation. Et quand ce discours apparaît, il est porté par quelque chose qui ferait rêver notre président Sarkozy, à savoir une politique de civilisation, un projet de civilisation grandiose. Il ne s'agit pas simplement de comprendre la nature, oui, il s'agit de cela, mais il s'agit de mille fois plus. Il s'agit non seulement de comprendre les mystères, en effet, de l'univers naturel, mais il s'agit surtout de mettre ces fameuses lumières, ce progrès des sciences et des techniques, au service de deux objectifs fondamentaux, l'émancipation de l'humanité, la liberté, et le bonheur de l'humanité, le bonheur, une idée neuve en Europe, dit Saint-Just. Liberté, bonheur, ça s'appelle l'idée de progrès. Et au fond, cette idée de progrès, ce projet humaniste, ce projet républicain, peu importe le nom qu'on lui donne, il va animer toute l'Europe, droite et gauche confondues du reste. Il va animer toute l'Europe, pratiquement, on peut dire, jusqu'au général de Gaulle dont on parle beaucoup aujourd'hui. Quand le général s'agite sur sa chaise en disant « la ménagère, elle aimerait bien qu'on ait une télévision, qu'on ait une machine à laver, puis pourquoi pas une auto », ces phrases qu'on a entendues 100 fois, eh bien, il est encore animé par cet optimisme des Lumières, par cette idée que le progrès des sciences et des techniques va libérer l'humanité, émancipation de l'humanité, et la rendre plus heureuse, en tout cas lui apporter plus de bien-être. Encore une fois, liberté, bonheur, il y a deux objectifs de civilisation supérieurs à la connaissance elle-même, supérieurs à la science elle-même, et c'est cela la première figure, le premier visage de la mondialisation. Je n'évoque pas le tremblement de terre de Lisbonne, mais ce serait un bon exemple de cette, vous savez, ce tremblement de terre qui fait entre 50 000 et 100 000 morts en 1755, qui détruit la ville basse de Lisbonne. Eh bien, tous les grands esprits d'Europe vont écrire sur ce tremblement de terre, et au fond, tous disent à peu près la même chose. La nature est une salope, la nature est immonde, c'est l'ennemi. On n'est pas du tout écologiste à l'époque. Mais grâce au progrès des sciences et des techniques, eh bien, on va pouvoir la maîtriser, la museler, la mettre sous clé. On va pouvoir s'en émanciper, s'en libérer et du coup être plus heureux. Je ne développe pas ces thèmes, mais telle est la première mondialisation, qu'elle est animée par une finalité. Il y a un objectif, il y a un grand dessein, il y a un projet de civilisation grandiose. Et encore une fois, il animera droite et gauche confondues toute l'Europe jusqu'au général de Gaulle, pour parler simplement du contexte français. Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième mondialisation, celle qui va faire de la logique de l'audimat le cœur du monde tout entier, pas simplement de la presse? Qu'est-ce qui va se passer avec cette deuxième mondialisation? Eh bien, on pourrait dire que ce gigantesque projet de civilisation, humaniste et républicain, il tombe, il chute, comme dans la Bible, comme dans Platon. Il est victime d'une chute, il tombe à l'intérieur d'une infrastructure, pour parler comme le vieux Marx, qui est celle de la compétition généralisée de tous avec tous. Compétition entre les entreprises, ouverte désormais sur le grand large, compétition entre les peuples. Souvenez-vous de la discussion qu'on avait eue au GATT il y a quelques années sur la protection du cinéma et de la culture française, européenne, contre l'impérialisme réel ou supposé des États-Unis. Compétition entre les laboratoires scientifiques, compétition entre les universités. Chaque 3 mois, à la une du Point, de l'Express ou de l'Obs, vous avez un classement mondial des universités. Bref, compétition tous azimuts, compétition ouverte sur le grand large. Voilà le terreau, l'infrastructure dans laquelle s'incarne le grand projet humaniste et républicain qui avait commencé d'ailleurs pour une part dans cette salle et avec les Lumières. Eh bien, cette chute dans l'infrastructure de la compétition mondialisée, elle change intégralement notre rapport à l'histoire et à la politique. Elle change intégralement notre rapport au sens, et c'est ça qui va générer cette figure de l'audimat, que je prends évidemment comme une espèce de métaphore générale du monde d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, je prendrai simplement un exemple pour que ce soit plus clair et plus simple. Le chef d'entreprise qui fabrique ce que j'ai à la main et que vous avez dans votre poche vraisemblablement, à savoir un téléphone portable, en l'occurrence un iPhone, mais n'importe quel autre objet technique ferait l'affaire, sauf que celui-là, il est vraiment la quintessence la concrétisation, l'incarnation la plus incroyable de l'essence même de la mondialisation et de la logique de l'audimat. Je vous dis pourquoi. Le chef d'entreprise qui fabrique ce que j'ai à la main, Steve Jobs, ou celui qui le vend en France, France Télécom, il sait en vérité une chose et une seule en toute certitude. Sur le reste, il a de grandes hésitations. Le monde est très opaque, très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? De la vidéo, du texte, des images, des jeux, le tout, dans quelle proportion tout ça est très compliqué. Mais il sait une chose en toute certitude, c'est que si le téléphone portable qu'il met sur le marché dans 3 mois, en l'occurrence d'ailleurs dans 10 jours pour celui-là, n'est pas plus performant que celui que je tiens en main, s'il n'y a pas plus de pixels dans la caméra, s'il n'y a pas plus de mémoire dans le MP3, s'il n'y a pas une connexion 4G, etc., 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 eh bien, mon chef d'entreprise, ce n'est pas une question de projet, ce n'est pas une question d'idéal, ce n'est pas une question de vision du monde, ce n'est pas une question d'objectif, c'est juste une question de survie, il est mort. Il est ravalé par le voisin, il est bouffé par BlackBerry, par Nokia, par Samsung, par qui vous voudrez. Et par conséquent, mon chef d'entreprise ne sait qu'une seule chose, c'est qu'il est obligé d'innover et d'innover encore. Dans la presse, ça donnera le scoopisme. Il est obligé d'avancer comme un vélo qui n'avance pas assez vite tombe. Il est obligé de tourner, si je puis dire, comme un gyroscope qui ne tourne pas assez vite sur son axe, tombe du fil sur lequel vous l'avez posé. Mais le gyroscope ne sait pas pourquoi il tourne. Vous, vous savez que s'il ne tourne pas assez vite, il va tomber. C'est totalement dénué de sens. Et par conséquent, nous entrons dans une logique qui est celle de la rapidité, de la vitesse, de l'innovation radicale, de l'innovation permanente. Innovation qui est rendue nécessaire par la logique absolue du benchmarking. De telle sorte que nous sommes entrés dans une histoire qui est mue, je dirais, par les... Le benchmarking, c'est quoi ? Le benchmarking, ça veut dire la comparaison avec le voisin. C'est le terme qu'on utilise dans toutes les écoles de commerce du monde d'aujourd'hui, sans aucune exception, sur la surface de la planète tout entière. On appelle benchmarking le fait qu'on est obligé de se comparer avec le voisin pour, dans la compétition, savoir si on fait mieux que lui ou moins bien que lui. Et donc le benchmarking, c'est la comparaison entre Nokia, Samsung, BlackBerry, qui regardent s'il y a plus de pixels dans la caméra, s'il y a plus de mémoire dans le MP3, si l'écran est bien tactile, si la connexion est 4G, etc. C'est donc la logique de la comparaison avec le voisin qui pousse constamment à l'innovation permanente. Comme mon gyroscope doit tourner, sinon il tombe du fil, encore une fois, sur lequel on l'a posé. Est-ce que quelqu'un serait assez crétin dans la salle pour s'imaginer qu'il va être plus libre et plus heureux parce qu'il aura la 4e génération d'iPhone dans 10 jours? Personne ne le pense, sauf peut-être les petits-enfants, et encore. Nous l'achèterons tous, c'est ça le monde dans lequel nous sommes entrés. Et si nous ne l'achetons pas, vos enfants l'achèteront, ou vos petits-enfants. C'est ça l'univers dans lequel nous entrons. C'est un univers qui est intégralement dénué de sens. Pourquoi ? Il est structurellement dénué de sens parce que l'histoire avance. Non plus comme le général de Gaulle pouvait encore l'imaginer, par rapport à un objectif, à une aune, liberté, bonheur, progrès, humanisme, république, par rapport à laquelle on pourrait mesurer les progrès de l'histoire. Nous n'avançons plus par rapport aux causes finales, par rapport à des objectifs, à des buts, mais nous avançons poussés dans le dos, et encore je suis poli, par une obligation anonyme, mécanique, automatique et aveugle, d'innover ou de crever, d'avancer ou de mourir. Et le chef d'entreprise qui n'innove pas, il lui arrive ce qui arrive à une espèce naturelle dans Darwin, il est sélectionné tout simplement. C'est ça l'univers dans lequel nous sommes entrés. Eh bien cet univers-là, il a 3 conséquences, il en a 1000 autres. Mais je vais revenir un peu à peu vers la presse. Il a 3 conséquences. La première conséquence, je l'ai évoquée implicitement, mais elle est extraordinairement puissante, et je pense que c'est ce qui inquiète le plus nos concitoyens dans cette affaire de mondialisation, c'est que l'histoire devient intégralement dénué de sens. Autrement dit, nous avançons à toute vitesse, il y a en effet une accélération de l'histoire, mais nous ne savons ni vers quoi nous allons, ni pourquoi nous y allons. Nous n'avons aucune idée du monde commun que nous construisons. Et c'est évidemment ce qui inquiète dans la mondialisation d'aujourd'hui. La seule logique de la chose, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, la logique du benchmarking, donc de l'innovation permanente. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est une des raisons très profondes de la réconciliation du monde bourgeois avec l'avant-gardisme bohème. Mon ami François Pinault est aujourd'hui numéro 1 au monde de l'art contemporain. C'est comme ça qu'il est présenté à la une du Figaro il y a quelques semaines. Et bien évidemment, j'ai eu souvent l'occasion d'en parler avec lui, c'est parce qu'il reconnaît aujourd'hui que cette logique de l'avant-garde, cette logique des Picasso, des Braque, des Matisse et des autres, et bien cette logique de l'avant-garde, cette logique de l'innovation, de la rupture permanente avec la tradition, elle a anticipé la logique de l'entreprise d'aujourd'hui. Et que d'une manière, me disait-il d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, la seule chose, me disait-il, qui m'intéresse chez un être humain, c'est sa créativité, c'est-à-dire sa capacité d'innovation. Encore une fois, dans la presse, ça donne le scoopisme. Benchmarking entre TF1 et France 2, ça donne d'ailleurs, souvenez-vous par exemple, mais c'est un très bon exemple, dans l'affaire Baudis, pour ceux qui s'en souviennent, eh bien, il y avait cette espèce d'être indéterminé, étrange, qui lançait des dénonciations fulgurantes contre le malheureux Baudis, des dénonciations qui étaient complètement absurdes et injustes. Eh bien, il a été finalement reçu par France 2, parce que s'il n'avait pas été pris par France 2, TF1 menaçait de l'inviter. Et c'est TF1 qui récupérait évidemment l'audimat maximum de la soirée. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est cela le benchmarking, très exactement. Premier point, nous rentrons dans un univers qui est totalement dénué de sens. Deuxième point, nous entrons dans un univers qui est complètement dénué de contrôle. Et c'est pourquoi je renvoie ici au chapeau de mon intervention, si je puis dire. Je vous disais qu'on ne contrôle pas la presse. D'une manière générale, on ne contrôle pas le monde. Le problème politique numéro un aujourd'hui, il n'y en a pas deux à mes yeux. C'est le suivant, c'est comment reprendre la main sur un cours du monde qui nous échappe presque totalement. Nous sommes dans une situation très étrange, personne ne veut le voir, ni l'entendre, ni le dire, parce que ça fait peur. Mais c'est la vérité, tout simplement. Dans un univers mondialisé tel que celui que je vous décris, les leviers de la politique nationale ne lèvent pratiquement plus rien. C'est ça le problème politique fondamental. Si il suffit d'y réfléchir 3 secondes pour le comprendre, ou pour le voir, à défaut de le comprendre, est-ce que vous croyez sincèrement que si nos politiques, Fillon, Sarkozy en l'occurrence, avaient vraiment du pouvoir sur le cours du monde, nous aurions en même temps l'explosion des déficits publics comme jamais en temps de paix, l'explosion du chômage, et en même temps une croissance quasi zéro, ce qui par ailleurs devrait réjouir les écologistes. Nous sommes avec 3 fléaux, ce qui prouve bien explosion du chômage, explosion des déficits, des faillites du reste, et puis croissance quasi zéro, ce qui prouve bien que nos malheureux présidents et premiers ministres n'en peuvent mais. Ce ne sont ni des salauds ni des imbéciles. S'ils ne corrigent pas le tir, c'est que dans un univers mondialisé, ça leur échappe très largement. Et donc la vraie question politique, c'est comment reprendre la main sur ce cours du monde, comment retrouver des marges de manœuvre. C'est la question de l'Europe, du couple franco-allemand, c'est la question du G20, bien évidemment. Mais enfin, le G20, pour l'instant, disons les choses franchement, nous étions dans un avion où il n'y avait ni pilote ni cockpit, on a construit le cockpit, mais il y a 20 types dedans qui se battent pour attraper le manche, donc ça ne va pas très droit. Et puis la troisième conséquence, c'est évidemment cette tyrannie du benchmarking qui va sévir, si je puis dire, ou qui va s'imposer dans tous les domaines et qui va donner, évidemment, dans la presse comme dans les autres entreprises. Encore une fois, les entreprises de presse ont un problème numéro un, c'est de survivre, de vivre tout simplement, d'éviter les plans sociaux comme dans n'importe quelle entreprise, d'avoir assez d'argent pour être libre. C'est ça le problème de fond. Et par conséquent, entre les journaux, qu'ils soient télévisés ou qu'ils soient papier, eh bien c'est la comparaison, compétition permanente comme dans n'importe quel autre domaine, et même plus que dans n'importe quel autre domaine, parce que la presse va relativement mal en France et que par conséquent c'est très dur. Quand Laurent Geoffrin, c'est dommage qu'il ne soit pas là, reprend Libération, il reprend un journal qui est quasiment en faillite, il est obligé d'abord et avant tout de le redresser, c'est son problème numéro un. Merci Sarkozy, devrait-il dire, parce que la critique de Sarkozy, qui est devenue un genre littéraire à part entière, a permis de redresser des journaux comme Marianne ou comme Libération. Voyez comme c'est intéressant. Je regrette qu'il ne soit pas là, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. D'ailleurs, son livre sur la presse est excellent, très juste. Il évite les erreurs que j'évoquais tout à l'heure de manière tout à fait convaincante. Mais regardez comme c'est amusant le cas de Libération. Le principal actionnaire s'appelle Édouard de Rothschild. Le principal actionnaire était, jusqu'à ce qu'il reprenne Libération, et un petit peu après, un grand ami du président Sarkozy. Est-ce que vous trouvez que ça a changé le ton de Libération ? Absolument pas. Quand Laurent Geoffrin a accepté de prendre la direction de la rédaction, il en a discuté longuement avec Édouard de Rothschild, et bien évidemment, il a mis comme première condition la liberté absolue de ton et de critique à l'égard de Sarkozy. Et quand vous ouvrez Libé, on n'a pas le sentiment qu'il s'en prive. C'est tous les jours. Bon. Et donc, on voit bien que ce que je vous dis là est pertinent, y compris dans ce cas-là. C'est pas parce que Édouard de Rothschild est principal actionnaire de Libé que Libé est contrôlé, muselé et sert la soupe à Sarkozy. C'est pas vrai. Et en revanche, le principal problème des directeurs de la rédaction, comme du principal actionnaire, c'est comment faire en sorte que le journal continue à vivre avec son public, qui est plutôt un public de gauche, deuxième gauche, etc. Et donc, on a là un problème d'audimat, qui est le problème numéro un. Le problème numéro un, comme je vous le disais en commençant, ça n'est pas la liberté de la presse. Le problème numéro un, c'est le problème de l'audimat. Et évidemment, les deux peuvent se rejoindre par le biais économique, parce que si l'audimat devient tyrannique, alors, certes, même si le politique ne contrôle pas, l'économique devient quand même un tyran. Le scoopisme est terrible, est terrifiant. J'évoquais tout à l'heure cette concurrence, en l'occurrence terrifiante, entre TF1 et France 2 sur le cas de Dominique Baudis. Alors ça n'empêche pas le talent des journalistes, ça n'a rien à voir. Ça n'empêche pas la liberté de ton. Dans un journal de droite comme celui dans lequel j'écris, le Figaro, on écrira plutôt des choses aimables sur la droite républicaine. Ça n'empêche pas de faire des critiques de temps en temps. Dans un journal de gauche, ce sera le contraire. Donc on continue à avoir une marge de manœuvre tout à fait acceptable, elle est même assez considérable, mais évidemment à ceci près que il ne faut pas couler la boîte. À ceci près que si on perd le lien avec le public, avec l'opinion publique, avec les clients, tout simplement, on risque sa peau. Quand vous présentez une grande émission sur TF1 en prime time, à 21h ou à 20h45, si les parts de marché et l'audimat attendu par le président de la chaîne ne sont pas au rendez-vous, vous êtes viré dans le quart d'heure. Et vous risquez votre vie, si je puis dire, chaque semaine. Il y a là quelque chose qui mérite vraiment réflexion. C'est ça le problème de fond. Encore une fois, c'est pas le contrôle politique. C'est ça le problème de fond. Je termine sur une anecdote, là aussi pour briser une dernière petite coquille vide. On s'imagine aussi souvent, quand on regarde la télévision et qu'on ne sait pas comment ça marche de l'intérieur, que tel ou tel est invité souvent parce qu'il est copain avec l'animateur. Mais rassurez-vous, il n'y a pas de copain dans ce monde-là. Les gens se détestent. Plutôt qu'ils ne s'aiment assez largement, comme dans le milieu politique. C'est pas par copinage qu'on est invité chez Pivot, chez Tadi ou je sais pas qui. Enfin, Pivot, je parle de mon temps, si je puis dire, comme un vieux mammifère, mais c'est vraiment quelqu'un que j'adorais et que j'aime toujours beaucoup. Et je pense que c'était le meilleur animateur de télévision qu'on ait eu dans le domaine culturel, mais peu importe. Mais on n'était pas invité chez lui par copinage. On est invité chez lui parce que l'animateur, lui, y revient en deuxième semaine, pas vous, et qu'il a besoin de quelqu'un qui fait marcher l'émission en termes d'audimat. Si on invite Jean d'Ormesson à chaque fois qu'il sort un livre, c'est parce que Jean d'Ormesson est un type formidablement sympathique et que tout le monde l'adore. Il y en a d'autres que je ne citerai pas qu'on invite pour le motif inverse, parce qu'ils sont détestables et qu'ils mettent les gens en colère. Mais ça fait de l'audimat aussi. Vous trouverez les noms vous-même. Ça marche très bien comme ça, mais c'est jamais par amitié qu'on vous invite. On invite quelqu'un quand on est patron d'une émission de télévision pour faire marcher l'émission. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et donc ça mérite réflexion. Il faudra une deuxième partie de l'exposé, mais je vous en fais grâce, savoir comment on gère cette question du tyran économique, alors que tout le monde s'oriente toujours, tout le monde cible, tout le monde tire sur un pseudo-tyran politique qui manifestement n'existe pas. Merci de votre attention. Thank you.